Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.
Mercredi 25 septembre, il est 17h07 et nous sommes à Montpellier pour le 84e congrès HLM. J'ai le plaisir de tous vous retrouver pour une table ronde organisée avec Sepia. Et on va commencer peut-être par l'hôte de ces lieux, David. Bonjour, David Nicole, vous êtes directeur général de Sepia.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors David, on est plutôt bien accompagné. Alors d'abord à votre droite, Sonia Fonseca. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la relation client du pays de Meaux Habitat.
Tout à fait, c'est bien ça.
Et bien, bienvenue Sonia sur notre plateau.
Merci
également.
À vous.
Et puis Vincent Lamy, vous êtes directeur du pôle gestion locative chez Séminor.
Tout à fait.
Alors, bienvenue Vincent également, parce
Merci.
Que j'ai dit bienvenue à tout le monde quand même, donc bienvenue à vous. Ensemble, on va parler de digitalisation, et pas n'importe laquelle, la digitalisation de la relation locataire. Alors peut-être, David, pour bien introduire cette table ronde, parler de... ce qu'est la relation locataire.
Alors, la relation locataire côté éditeur de logiciels, effectivement, c'est servir le client du client. Mmh. C'est-à-dire qu'on se met dans une position un peu particulière, c'est qu'on adresse des logiciels à des organismes HLM qui eux-mêmes vont s'adresser à leurs clients qui sont les locataires. Et donc l'idée est de développer un certain nombre de services nouveaux qui permettent de simplifier cette relation. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a avec un portail, c'est de rendre accessible un certain nombre de choses qui évitent de passer à l'agence, d'envoyer des courriers, des choses qui sont lourdes.
J'entends les mots service et simplification. Je pense que c'est des mots sur lesquels on reviendra pendant cette table ronde. Des mots qui sont très importants.
Oui, tout à fait. C'est toute l'ambition, mais avec la proximité qu'il faut conserver, bien évidemment.
J'allais le dire. La proximité.
Voilà. Exactement. Sonia, vous, votre point de vue de la relation locataire ?
C'était ce que il m'a pris un peu le mot de la bouche, parce que la proximité, malgré ça, malgré tous les outils qu'on a en place et qu'on essaye de développer pour digitaliser, il faut que la proximité soit là. Et la proximité, pour moi, c'est l'humain. Et on ne l'oublie jamais à Pays de Meaux Habitat. Et c'est vraiment un leitmotiv chez nous. On est en train de travailler un peu notre raison d'être. Et clairement, la proximité, ce sera un des mots sur lequel on va tabler pour écrire cette raison d'être. Donc on est aidé avec nos différents prestataires et notamment avec Sepia sur Omer pour développer le portail locataire qu'on a fait il y a peu de temps, justement où le locataire par lui-même va faire des actions.
Ouais. Mais on reviendra un petit peu plus dans le détail après sur ce portail. Mais ce que je retiens surtout, c'est que ça peut être assez paradoxal, digitalisation, mais contact humain, toujours très important.
Tout à fait. En tout cas, chez nous, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les outils vont servir pour les collaborateurs et aussi pour nos locataires. Mais on n'oublie pas la place du gardien, on n'oublie pas la place du personnel d'accueil qui est là tout le temps, des responsables de secteur. Et moi-même, je suis la première à appeler un locataire quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que j'ai chez moi, en tout cas, le traitement de la réclamation. Et c'est quelque chose sur lequel je tiens à vraiment avoir une tâche et être vraiment en première ligne aussi quand il y a besoin. Je reçois dans mon bureau facilement, c'est hyper important.
Vincent, même question, relation locataire.
Alors relation locataire, en fait c'est un mot qu'on peut décliner, le mot locataire on peut le décliner. Mmh. La relation locataire c'est aussi la relation client, le mot a été dit, avec du coup toute une notion de service et de satisfaction client. Aujourd'hui, on est sur un marché du logement qui, sur certains territoires, est plutôt détendu. Donc, on a aussi une vraie qualité de service à apporter pour répondre à leurs attentes. Et c'est aussi de la relation habitant, parce que c'est des gens qui vivent dans leur logement. Donc, au-delà de locataires avec un loyer à payer ou de clients qui sont en attente de service, c'est aussi des gens qui vivent dans leur logement, littéralement. Ça, c'est la définition même. Et qui, donc, pour qui chaque sujet est un sujet vraiment primordial, ça touche à leur intimité.
Ouais.
Et c'est ce qui est parfois compliqué dans la relation locataire, qu'on comprend mieux avec la relation habitant, c'est qu'en fait on a affaire à des interlocuteurs qui vivent chez eux, et quand ils ont un problème technique chez eux, c'est un problème qui va polluer leur vie du quotidien réellement, qui va complexifier leur vie familiale, l'organisation avec des enfants et autres. Et donc ce qui pourrait paraître comme un petit problème est quelque chose qui peut prendre des grandes ampleurs. Sur la digitalisation, si j'enchaîne un tout
Allez-y.
Petit peu, un des principaux objectifs, c'est vrai aujourd'hui, c'est d'améliorer notre relation humaine avec nos locataires. Et donc la digitalisation, elle peut nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'apporter toutes les réponses entre guillemets les plus simples. À combien je suis sur mon solde locataire, ouais. On peut lui répondre, interroger la bécane et lui donner son chiffre, mais quelque part il n'y a pas de grands intérêts. S'il a l'info en direct, il se pose la question, il se connecte, il voit où est-ce qu'il en est de son solde, il sait combien il doit payer. Quelque part, il n'a pas besoin de rentrer en relation. À l'inverse, quand le problème est plus important, c'est là qu'il faut qu'on ait du temps à lui consacrer.
C'est ça.
Et donc, si on élimine un maximum de petits sujets, ben, on a plus de temps pour se concentrer sur les sujets d'importance et donc sur l'humain.
Et en fait, il faut que les sujets d'importance nécessitent une réponse aussi qui est hyper rapide, hyper adaptée. Je crois que c'est Sonia qu'on en discutait en préparant cette émission. Vous avez formé vos équipes, par exemple, à toujours donner une réponse à une question.
C'est bien ça. En fait, l'idée, c'est de... Là, j'ai demandé à mes équipes d'accueil de se reformer et d'avoir un bon discours parce qu'il est important de pouvoir répondre le plus rapidement possible à son locataire. Alors, c'est pas répondre en disant « Ah ben, je ne sais pas ». Ça, je ne veux plus l'entendre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tous nos collaborateurs puissent être informés de tout ce qui se passe, notamment à l'accueil, de tout ce qui se passe dans les différents services, pour pouvoir répondre. Nous, on va entamer du relogement, on a des démolitions de tours, donc les gens ont besoin de connaître des calendriers, ils ont des questions techniques sur qui vient chez moi pour changer mon robinet. Donc, il faut, à l'accueil, avoir tous les éléments d'information et être, en fait, le pro de ce qui se passe à Payne-moi Habitat pour pouvoir répondre aux locataires. Alors, parfois, on ne sait pas, mais quand on ne sait pas, l'idée, c'est de leur dire, bah, écoutez, je vais me renseigner et je vous rappelle. Et je leur dis, quand vous dites que vous rappelez, vous rappelez.
Ouais, rappelez.
Et vous dites bien, vous vous présentez, vous dites, moi,
et
je suis Leïla.
Vite.
Voilà,
et...
c'est
ouais.
ça. Je suis Leïla, ouais. Je prends en charge votre demande. Là, je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas l'information. Je me renseigne et je vous rappelle.
Ouais. David, j'imagine que forcément, toutes ces problématiques qu'on entend, ça impacte les solutions que vous proposez.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que... Bah... Pour les deux sujets, c'est-à-dire que d'un côté, sur des systèmes d'enquête en ligne et enquête SLS, c'est des documents en papier que personne ne va vraiment comprendre, enfin parfois pas comprendre. Il y a des pièces justificatives. Quand c'est resté en papier, l'organisme va recevoir du papier, il faudra quelqu'un qui va ressaisir l'information, parfois qui n'est pas forcément très lisible, donc il faut la contrôler, il y a tout un ensemble de choses. Là, ce qu'on met avec le portail sur cet exemple-là, c'est vraiment là où on veut aller dans du gain de temps, c'est-à-dire qu'on fait comme l'État. C'est-à-dire que sur les impôts, c'est-à-dire que maintenant les gens sont habitués à aller sur le site des impôts, ben là c'est le même principe, ils vont sur le site, ils vérifient que leurs données sont justes, ils remplissent les demandes obligatoires, puisque c'est des enquêtes qui sont obligatoires sur leurs revenus, ils mettent leurs pièces justificatives, ils valident, c'est revalidé, parce qu'il faut bien évidemment valider la pièce de l'autre côté, et on remet tout dans l'outil. Et aujourd'hui, c'est des processus qui, lorsqu'on est sur du papier, c'est du scan, c'est du rattachement manuel dans l'ERP, c'est vraiment des choses qui sont très longues. Donc ça, c'est des vrais sujets côté gain de temps, parce que c'est du gain de temps administratif. Et l'autre sujet sur la partie réponse, c'est le portail, tout ce qui va être saisi, le locataire va le visualiser. Donc on est vraiment sur une interface où la communication, parce que c'est le sujet de la communication au final, hein, sur ce volet-là, c'est quand vous avez un problème, comment vous avez vous-même répondu au problème en interne en disant « on va faire une commande » et comment on prévient le locataire qu'il y a une commande. On peut l'appeler, c'est l'idéal, mais si sur son téléphone, il voit qu'il y a une commande de passer, il est déjà rassuré sur le fait que la commande est prise en compte ou qu'il y a l'entreprise qui va passer. On est d'accord, c'est ces deux éléments-là qui sont... Et c'est comme ça qu'on a conçu le... Enfin, qu'on conçoit même, parce qu'il y a des nouveaux dispositifs qu'on met en place, mais c'est comme ça qu'on conçoit ce qu'on veut apporter en termes de portail et les SMS et les emails et tout ce qui va avec.
Bah, excellente transition, parce qu'en fait, la digitalisation de cette relation client, finalement, ça a apporté une amélioration, c'est être allé encore plus loin dans la relation client. Sonia ?
Ah bah oui, complètement. Moi, j'ai pas peur de l'IA, par exemple. On en parle beaucoup en ce moment à Payne-moi Habitat et je crois que c'est un boost. Ça peut nous aider à traiter des demandes plus rapidement, comme on disait, et avoir plus de temps pour le locataire. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens, réellement.
Ok. Vincent ?
Sur le...
La digitalisation, est-ce que ça a aidé à vraiment améliorer la relation client ?
Alors, à l'améliorer la relation, je dirais pas forcément directement.
Accélérer.
Le point important qu'a dit tout à l'heure, c'est dans la relation client, forcément, il y a deux entités. Il y a notre locataire et il y a nos équipes. Et donc l'important pour les équipes, c'est pour pouvoir avoir la réponse juste, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est de pouvoir se partager l'information. Si l'information elle est notée sur un bloc-notes ou c'est dans la tête d'un collaborateur, quand quelqu'un d'autre est confronté au problème, il n'a aucune info. et donc le locataire va réexpliquer tout son problème et ainsi de suite. Et donc, ce qui est important dans la digitalisation, quelque part, c'est vraiment ce partage d'informations, de pouvoir avoir l'ensemble des tenants et aboutissants, ce qui a été fait, et que ça, ça contribue grandement à améliorer le travail en transversalité entre les équipes, et donc à apporter des réponses plus qualitatives. Et je dirais que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur du qualitatif et mieux répondre aux demandes et aux attentes.
En fait, si je vous écoute, le point central de cette relation client, c'est pas tant la digitalisation, qui en fait est un outil très important, mais en fait le point central, c'est toujours maintenir ce contact, cette communication, ce suivi, et l'impression finalement de donner au client un certain confort et qu'on l'écoute. Voilà, communication.
Oui. Et pour rebondir sur le rôle du gardien, parce que c'est au final ce rôle de proximité qu'on met aussi en avant, c'est à la fois un portail pour le locataire pour qu'il puisse donner ses demandes, télécharger un certain nombre de documents, mais c'est aussi celui du gardien qui jusqu'à présent était un peu emprisonné, c'est-à-dire il devait se connecter sur un PC pour aller faire un certain nombre de recherches ou saisir des informations. Aujourd'hui, il devient mobile.
Oui.
C'est-à-dire que le portail du locataire et aussi le portail des équipes de proximité pour traiter directement les éléments. Et donc dans les dernières livraisons qu'on a faites sur le portail, ils peuvent maintenant valider une commande, les travaux ont été faits, il est sur place, il valide le service fait et il le fait directement de son téléphone sans avoir besoin de se reconnecter entre guillemets sur le RP qui est forcément dans la loge et pas forcément sur son téléphone.
Alors, qu'est-ce que ça a nécessité en interne? On en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, mais au fur et à mesure de l'apport de la technologie, de la digitalisation, qu'est-ce que cela nécessite en interne? J'imagine en formation des équipes, sensibilisation.
Mais moi, je leur dis souvent, donc on a l'outil, donc par exemple pour parler un peu de la réclamation d'un locataire qui n'est pas satisfait, qui a un problème. On a donc notre outil, notre portail qui nous permet de rentrer toutes les réclamations et d'avoir un suivi. Et ça nous permet aussi, moi, en interne, de dire à mes collaborateurs, vous voyez, d'avoir rentré tout ce suivi et ce besoin, c'est-à-dire le locataire, il est venu une fois, on n'a pas forcément répondu tout de suite, ou il n'a pas eu tout de suite la bonne réponse. Il va refaire une réclamation. Donc nous, on a l'historique, donc ça permet d'avoir un très bon suivi. Et moi, je dis à mes collaborateurs à chaque fois, je dis, imaginez que en fait, ce locataire, ce que vous avez en ligne, ou qui est venu vous voir en frontline à l'accueil, ou qui nous a écrit, imaginez que c'est ta maman, que c'est ta meilleure amie, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas attendre? Non, tu as envie de lui répondre tout de suite, tu veux donner un service qui est plus. Qu'est-ce que tu ferais pour cette personne finalement?
Bien sûr.
Et on est toujours le client de quelqu'un en plus.
On est les premiers à râler. Dès que le service client ne nous répond pas,
c'est
ça
ce
nous
que
rend
je
fou.
Leur dis, moi. Oui. Je leur dis, vous êtes toujours les clients de quelqu'un. Vous êtes le client de votre boulanger, votre boucher, de votre, si vous avez un forfait SFR, Bouygues ou Orange, vous êtes aussi le client. Et quand vous n'êtes pas content, vous appelez et qu'on vous fait tourner, on dit, c'est pas ici, c'est à tel endroit, je vous passe telle personne, etc. Il n'y a rien de plus insupportable. Donc moi, j'essaye de culturer vraiment mes équipes en leur disant, voilà, imagine que cette personne, c'est ta maman, que c'est ton frère, c'est ta meilleure amie, qu'est-ce que tu fais pour elle?
Qu'est-ce que t'aimerais qu'on te fasse?
Exactement. Et donc d'avoir le suivi, parce que l'informatique est utile, parce que moi j'ai différents personnels à l'accueil notamment, et chez Pays de Moi Habitat, on est quand même une centaine, on a besoin de pouvoir avoir un outil efficace quand je tape Madame Dupont, que je vois son historique et que je sais ce qu'on a déjà fait, combien de fois elle a fait une réclamation, est-ce qu'elle a fait une réclamation un jour pour son appartement, est-ce que c'est pour sa place de stationnement, voilà. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est pour un trouble de voisinage? Et d'avoir ce suivi, cet historique, et d'avoir des outils dans lesquels on a confiance, c'est important.
Vincent?
Dans l'autre point qui a commencé à être évoqué par David, et qui est très important, effectivement, c'est de pouvoir équiper en mobilité les personnes, et de se dire, en fait, je peux signaler tout dysfonctionnement directement avec un locataire sans passer par le fameux, dans ce cas-là, vous avez qu'à appeler l'agence, vous avez qu'à écrire un courrier, parce que c'est toute une série de pratiques qui ont existé où le locataire mécontent, on lui explique pour que ce soit vraiment pris en compte, écrivez-nous donc un courrier, ce qui est vraiment un effet dévastateur, ou pour un locataire séminor d'avoir quelqu'un en proximité qui veut dire ça, il faut aller demander à séminor, donc typiquement je ne suis pas séminor, je suis juste la personne sur le terrain, et voilà où effectivement il faut que chacun fasse à ses responsabilités et joue collectif. C'est hyper important, et donc c'est vrai que de pouvoir les équiper en nomade et donc de pouvoir directement signaler un dysfonctionnement sans que le locataire ait nécessairement besoin, quelque part lui-même, de faire la démarche, ça commence par déjà un accompagnement. À partir du moment où l'accompagnement se déclenche, je dirais qu'il y a une grosse partie de la pression qui redescend. Une fois qu'ils comprennent que des actions sont engagées, on a une grosse partie de la réponse quelque part qui est donnée.
Tout à fait. Ça
rassure. Le piège suivant, je dirais que c'est être capable d'annoncer des délais qui peuvent être des délais difficiles à entendre. Parce qu'on est dans une société de l'instantané. On a des choses qu'on commande du bout du monde qui arrivent sous 48 heures dans la boîte aux lettres. Et on se dit, et moi j'ai un problème avec mon volet, et on me dit que ce ne sera pas réglé avant deux jours. On ne comprend pas. Mais là-dessus, il faut aussi avoir une transparence vis-à-vis de nos locataires pour leur donner la réalité de nos délais d'intervention. Et c'est toujours plus facile, quelque part, de raccourcir un délai que de le rallonger. Donc ça, c'est aussi moi un sujet sur lequel j'insiste. Avoir une promesse de ça va arriver, et avoir que des décalages de demi-journée, c'est l'effet dévastateur. Dire non, là, moi je sais vous garantir 3 jours, je vais faire le maximum, et avoir la possibilité de rappeler pour dire j'ai raccourci le délai, c'est toujours du positif.
C'est une excellente surprise quand ça va dans ce sens-là.
Voilà, c'est une mode surprise, même si des fois c'est pas forcément des surprises. Et alors l'autre point sur lequel on a sensibilisé aussi nos équipes, sur le suivi de un peu des réclamations, donc on va un peu au-delà, dans l'humain vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est que souvent, ils ne cherchaient pas forcément à récupérer quelque part les lauriers de leur gloire. C'est-à-dire que le problème résolu, ils n'allaient pas forcément réinterroger le locataire, est-ce que votre problème est bien résolu. Voilà, ils avaient envoyé un prestataire, le prestataire a dit c'est bon, il passe à autre chose. Et quelque part, il a dit non, rappelez-le.
Oui, est-ce que vous
déjà
êtes bien
pour être sûr
de...
que... Ce que vous avez le prestataire, même s'il est fiable, est bien confirmé. Ou s'il n'y a pas un autre, un petit quelque chose qui concernerait un petit complément à traiter. Et en plus, fréquemment, en fait, vous allez récupérer un remerciement. Et le métier de la relation locataire, c'est un métier où ils ne sont globalement alimentés que par du mécontentement. Il y a les locataires qui sont bien chez eux, chez qui tout se passe bien et qui n'ont pas de soucis. Globalement, ils ne nous appellent pas. Ouais. Alors, ceux de terrain peuvent les croiser ponctuellement, mais globalement, on n'a pas de contact avec eux. Donc, quand on a résolu un problème, il ne faut pas se priver de se prendre une petite victoire du quotidien, de rappeler la personne, de dire « votre problème est résolu, oui, très bien », et de recevoir un petit merci.
C'est la même chose quand on est à l'assistance chez un éditeur de logiciels. C'est que les gens ne nous appellent que quand ça ne va pas.
Aux équipes.
Non, mais j'ai pas envie qu'ils m'appellent pour me dire que tout va bien.
Non, mais est-ce que
non,
aussi, quelquefois, oui, c'est quand même.
Ça va dans tous les sens avec toutes les parties prenantes, moi,
ça.
Je trouve, vraiment.
Mais voilà, c'est... Non, mais je suis d'accord. Et puis, je pense
quand
que
ça
là,
va bien, c'est bien aussi de le savoir.
Et on sait que chez vos autres entreprises, c'est le cas. Et effectivement, c'est plutôt agréable parce qu'on. On sait que voilà, on avance ensemble et c'est plutôt tout ça qui est agréable.
Et alors, David, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur les solutions concrètes qui ont été déployées?
Alors, côté communication, parce qu'on était sur le sujet de la communication, oui. On a rajouté dernièrement des envois d'emails. Alors, ils étaient déjà existants, mais on vient compléter le système sur une des plateformes. On fait des envois en email en automatique, ce qu'on ne faisait pas.
Okay.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'IA, mais on est dans le prédictif, c'est-à-dire que l'attestation d'assurance, vous devez en fournir une, 60 jours avant, 30 jours avant. Hop, il y a un mail qui part tout seul, personne
pensez
n'intervient.
Pensez à aller
sur le portail, déposer. Et ça, c'est, on revient sur le temps administratif. Mmh. Bah, c'est le locataire qui va déposer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas contrôlé. Mais par contre, c'est tout un temps de scan, de photos qui sont prises.
Qui n'est pas fait par le gestionnaire.
Il y a ça. Et le deuxième volet sur lequel on a bien avancé, plus que je l'avais imaginé en fait en termes de déploiement, c'est la partie SMS.
Ouais.
Où effectivement, ça correspond à un vrai besoin. Et en termes de traitement, le nombre de potentiel est assez énorme. Le mail, le problème, c'est qu'il est ouvert à 12%. Vous devez être content quand vous faites un envoi de masse.
Et le SMS,
en comparaison, c'est 95% d'ouverture dans les 2 heures. Et lorsqu'on est sur le problème de l'ascenseur qui est en panne, dont on parlait tout à l'heure, le premier qui descend, qui voit que l'ascenseur est en panne, qui voit le gardien qui lui dit « l'ascenseur est en panne », son voisin va descendre, va dire « l'ascenseur est en panne », Et si tout se passe bien, toute la tour va descendre et dire au gardien l'ascenseur est en panne. Avec un SMS et une sélection dans le RP, on peut prévenir tous les gens de la tour que l'ascenseur est en panne, l'entreprise est prévenue, à 16h ils doivent intervenir. Et dans ce cas-là, on est dans la résolution, pas du problème, mais on est dans l'information qui fait que ça redescend
ça
la pression.
Ça évite de la réclamation inutile.
La réclamation inutile et la pression sur le gardien qui dit oui, je sais, mais malheureusement sur l'ascenseur, c'est pas lui qui intervient. Bah, je pense pas.
Je confirme, c'est pas le gardien.
Mais du coup, utilisation du SMS sans avoir un côté intrusif de spam SMS, c'est
oui.
vraiment.
Oui.
Voilà, c'est, tout ça, là, c'est garanti
faut
quand même.
Ouais, l'information, ouais, ouais. Hein.
Voilà, et c'est. Enfin, ils peuvent pas répondre sur l'SMS, c'est pas un 01 qui apparaît, c'est vraiment un système qui fonctionne sous. Sous forme d'API qu'on va stocker hein, en termes de consommation et d'affichage dans la fiche client. C'est, voilà, l'idée, c'est Pays de Habitat ou Séminor, c'est marqué, vous ne pouvez pas répondre, mais ouais. c'est très clairement dessus. Et demain, on a plein d'évolutions sur cette partie SMS qu'on va, avec une autre solution qui est Piloc, intégrer demain les paiements à faire par virement, c'est-à-dire les gens qui ont oublié de payer leur loyer. On puisse simplement leur pousser un SMS avec un lien et directement le virement se fait. Et là, on sait qu'on peut gagner 30 ou 40% de paiement plus rapide, hein, juste parce que les gens oublient en fait.
Ouais, alors ça, c'est très bien d'évoquer ce sujet-là parce que, effectivement, le fond du sujet, c'est quelles petites tâches sans valeur ajoutée on peut supprimer pour nos collaborateurs pour se consacrer à des tâches plus importantes. Mmh. Quand on parle de l'encaissement des loyers qui sont payés par chèque, il y a toute une partie du travail qui va être d'identifier qui a fait le chèque,
oui.
rattacher le montant à la bonne personne et créditer le compte. De même, quand on reçoit un virement basique, bah on va lire ce que la personne a écrit en référence de virement.
Si elle a marqué une référence.
Si elle a marqué une référence. Mmh. Ponctuellement...
Comme moi, j'oublie toujours... de mettre la mienne un mois sur deux déjà. Donc,
Voilà, ponctuellement, on va se retrouver avec des paiements à des montants qui correspondent à rien chez nous. Avec aucune indication et à passer un paquet de temps à essayer de comprendre qui a bien voulu vouloir nous payer cette somme. Et donc là c'est deux petits outils que vient d'écrire David. C'est sur le portail locataire aujourd'hui, il y a possibilité de payer en ligne paiement type carte bleue. Et là, nous, on reçoit directement l'information de paiement, mais rattachée au numéro de dossier. Donc on n'a pas besoin de s'embêter à rapprocher, de savoir qui a payé quoi. La remontée est automatique. Et avec Piloc, l'idée c'est un peu la même, c'est un virement, sauf que c'est un virement sur un IBAN qui est spécifique à chaque locataire, ce qui fait que nous, le versement arrive avec pareil l'identification du numéro de dossier. Donc tout ce temps-là, c'est du temps que les gens qui s'occupent des paiements n'ont pas besoin de passer du temps à faire du rapprochement bancaire, et ils peuvent se consacrer sur de la prévention de l'impayé. Et de l'accompagnement de locataires qui peuvent être en difficulté, de voir si on peut mettre en place un plan d'appellement, si on peut proposer d'autres solutions. Et ça, pour le coup, c'est vraiment de l'humain. C'est le thème qu'il faut mettre en parler du digital. Et c'est là qu'est notre valeur ajoutée. C'est sur cet accompagnement-là. Et c'est là où tout ce qu'on peut travailler et développer avec CPA est essentiel. Parce que ça nous permet quelque part de nous reconcentrer davantage sur le cœur de notre métier, qui va être la relation à l'habitant, et apporter une solution qualitative.
Et libérer du temps.
C'est libérer du temps. Et c'est vraiment enlever toutes les... Je crois que c'est vous qui m'aviez dit ça, Sonia. C'est vraiment enlever toutes les tâches qui peuvent être chronophages et se consacrer vraiment à l'essentiel.
Tout à fait.
C'est vrai, vous avez dit ça. Et il y a autre chose que vous avez dit tout à l'heure. Je vous cite beaucoup, Sonia. Et vous avez parlé d'intelligence artificielle.
Tout à fait.
Et je voudrais juste qu'on fasse un petit focus sur l'intelligence artificielle. Mmh. Une question toute bête, je pense, qui est très naïve, hein, mais est-ce que c'est le futur de la relation client ? Ça, c'est la question naïve. Après, on ira sur d'autres questions.
Alors, moi, je peux commencer à répondre. Depuis le début, il y a un mot qu'on a bien prononcé côté bailleur, qui est l'humain.
Ouais.
Donc, est-ce que c'est le futur ? Non, c'est pas une finalité. Je dirais que c'est toujours un peu le même sujet. C'est l'intelligence artificielle peut nous permettre de traiter les sujets simples. Mmh. Permettre de toujours pareil, gagner du temps sur un certain nombre de tâches, mais ce ne peut pas être la finalité. L'intelligence artificielle, ça va nous permettre d'aller plus vite sur des problématiques, typiquement sur la rédaction de courriers ou autres, où on peut passer, même avec certains modèles, toujours un petit peu de temps à reformuler, retourner. C'est quelque chose qui peut nous aider à avancer plus vite. Pour moi, ce qui va rester essentiel avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'elle reste contrôlée par l'humain.
Ouais.
Et donc, typiquement, un collaborateur expérimenté qui maîtrise son sujet, qui sait quelle information il a besoin, qui pousse les informations qui lui semblent essentielles sur ce dossier-là en disant « Fais-moi le courrier réponse, comme j'ai l'habitude de le faire, en tenant compte de ces infos-là qui sont importantes pour moi », on va avoir un résultat qui sera, à mon avis, qualitatif. Quelqu'un qui débarque, qui ne connaît pas,
ouais.
Réellement la problématique.
Et qui s'appuie sur l'IA.
Qui va s'appuyer sur l'IA, ouais. Mais en poussant des infos sans forcément les hiérarchiser, en disant bah, tiens, j'ai celle-là, je sais pas, je m'étouffe, fais-moi un courrier. Il y a de grandes chances qu'on tombe à côté.
Ouais.
Donc ce sera vraiment pour moi, on va plus être sur de l'assistance quelque part numérique, démultiplier les capacités de nos collaborateurs, mais en ayant vraiment une notion de ce sera quelque chose qui sera en assistance de nos collaborateurs. Le but ne sera pas de les remplacer, le but sera de pouvoir un tout petit peu les démultiplier. Voilà, on approche.
Sonia ?
Moi, j'ai pas la prétention de savoir ce que sera l'IA demain.
Ouais.
Par contre, je le vois comme un outil ou un moyen pour nous d'être plus efficaces. Voilà,
okay.
Tout simplement.
Ok. Vraiment améliorer encore l'efficacité que vous avez dans la relation client.
Exactement.
Et juste pour donner un éclairage côté éditeur,
ouais.
Parce qu'on a, nous, un groupe aussi où dans notre pôle...
J'imagine que vous y pensez, forcément.
Ah oui, bah, ça fait partie de toutes les réflexions des éditeurs et on se pose tous la question de où sont mes données, à qui je les donne, comment je les sécurise, parce que après, travailler avec l'IA, si vous commencez à mettre toutes vos données, c'est partagé avec le monde entier et au-delà du RGPD, c'est quand même vos propres données, donc il faut tout un domaine à sécuriser avant de se lancer dans de l'analyse prédictive de données, parce qu'il y a plusieurs sujets dans l'IA, c'est tellement large. Mais juste un exemple par rapport à l'IA et ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'IA aujourd'hui correspond à un niveau de développeur junior. En gros, vous demandez à coder, il vous code. Il n'y a pas de problème, il sait coder. Si vous le donnez à un junior, bah vous aurez à peu près une copie équivalente. Et si vous le donnez à un senior, il va aller optimiser en disant bah non, ça c'est pas bien fait, etc. Et en fait, le vrai métier, c'est pareil pour la publicité que je connais par ailleurs. Le métier de l'IA, c'est demain, c'est ceux qui savent donner les ordres et qui savent donner les commandes. Et en fait, c'est comment tu optimises, etc. Donc en fait, on va avoir des...
L'IA va remplacer... elle va forcément s'améliorer puisqu'elle va être au fur et à mesure du temps nourrie et du coup, elle va passer peut-être un jour du statut junior à confirmer...
Plus... Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est cet apprentissage-là. Mmh. Mais après, c'est toujours la même question, c'est la valeur qu'on veut donner, laquelle on conserve et laquelle on donne, on partage. Parce qu'il y a aussi une dimension peut-être un peu plus commerciale chez Sepia que chez les bailleurs, mais chacun a vocation, je dirais, à créer son propre niveau de service et de l'adapter sur ce volet-là. Donc c'est des vraies questions très intéressantes, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Il y a des chats de réponses qu'on intégrera sans doute à notre assistance. Mais là aussi, c'est la question, c'est à qui on ouvre toute notre panoplie de réponses et qui valide ? Puisque c'est la vraie question. Là, aujourd'hui, je passe une IA, avec toutes les réponses qu'on a faites depuis 30 ans dans le système d'information, il va nous sortir une réponse. Mais qui valide que, effectivement, cette réponse correspond bien à la version en cours, etc.
Il faut quand même un service de conformité pour aller vérifier que la réponse est la bonne.
Oui,
que...
c'est ça. Mais c'est la question de la validation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on demande des téléchargements de documents, on en parlait tout à l'heure. On peut aller plus loin dans l'IA, mais il faudra quand même que quelqu'un valide, alors peut-être plus la réponse au client final, mais un courrier, vous n'allez pas l'envoyer directement sans qu'il y ait une relecture. En tout cas, pour moi, c'est trop tôt.
Et il y a d'autres outils que l'intelligence artificielle, j'imagine, qu'on va commencer à développer dans le futur. Pas que cet outil-là pour la relation client du futur.
Derrière l'intelligence artificielle, mais on ouvre un champ qui est très très large.
Ouais.
Donc, en fait, on embarque l'analyse prédictive dedans. Et la vraie question, on en parlait, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, si on donnait toute la base de ces mineurs ou de PMO à une intelligence artificielle pour détecter qui va être le prochain impayé, avec un système d'algorithme, il pourrait identifier physiquement la liste des 10 prochains impayés. Si on le voit positivement, on met un système d'accompagnement, prévision, etc. Donc on fait du mini report sur le sujet. Et si on le voit négativement, vous prenez le même algorithme, vous le mettez à la demande des logements et vous excluez ceux que vous pensez qu'ils ne vont pas payer dans 2 ans, 3 ans. Oui, c'est à la fois emballant, enfin, je veux dire, on peut faire plein de choses. Et puis d'un côté, tout de suite, on se dit où sont les garde-fous, etc.
Dernière question, parce qu'il va être l'heure de conclure cette table ronde. On va faire justement un peu de prédiction. On va se projeter. Là, on est en septembre 2024 et on se projette aller en septembre 2029, 2030. On refait cette table ronde et on reparle de la relation client. Est-ce qu'on a réussi à développer tous les outils dont on a parlé pendant ces 30 minutes de table ronde ? Est-ce qu'on essaye d'aller encore plus loin ? Est-ce qu'on a accentué encore plus sur le côté humain, justement en ayant mis des garde-fous très importants pour que le côté humain y perdure ? C'est dur comme question.
C'est hyper dur comme question. Moi, je suis arrivée il y a peu de temps à Pinot Habitat, donc il y a déjà du travail à faire avec les collaborateurs sur la manière de traiter nos locataires. Donc j'espère qu'on aura beaucoup avancé, qu'on sera professionnalisé, qu'on aura été formé, qu'on aura fait plein de belles choses pour nos locataires. Évidemment, les outils vont encore grandir parce que nous, tous les jours, bah, on imagine aussi des choses. Et puis on appelle notre éditeur et puis on dit tiens, on a pensé à ça. Et puis ça serait bien que ça fasse ça aussi parce que ça serait vraiment super. Et donc eux, ils prennent en charge. Ils font bon, ok, on va développer ça. Donc je suis sûre qu'on aura encore plein d'idées parce qu'on en a toujours plein. Donc, je pense qu'on aura avancé, que l'humain sera toujours présent. Hein, j'y crois dur comme fer. Et puis le reste, j'ai pas de boule de cristal. Donc, ouais, exactement.
Ouais, alors je partage tout à fait le point de vue sur l'humain sera toujours présent, l'humain sera indispensable. Et j'ai quelque part aujourd'hui, l'humain, c'est ce qui aussi fera la différence par rapport aux habitants. Un bailleur qui n'aurait plus de relation humaine, ça deviendrait compliqué. Moi, mes grands espoirs, c'est de coupler de l'intelligence artificielle avec de la lecture de données. Ce qui permettrait typiquement les sujets qu'on a évoqués rapidement de est-ce que un questionnaire SLS est bien rempli, est-ce qu'une attestation d'assurance est conforme. J'avais que c'est des tâches qu'on pourrait aller encore un peu plus loin dans l'automatisation parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée dans ces traitements-là. Typiquement, nous demain, on parlait est-ce qu'on pourrait confier à une agence artificielle le traitement des réclamations. Pour moi, ça pourrait être une possibilité qu'on pourrait ouvrir, mais en informant, et ça, je pense que ce serait quelque chose de très important, que la personne soit informée que c'est une intelligence artificielle qui va lui répondre. Et quelque part lui dire, je vous donne le choix. Voilà, vous pouvez, alors soit vous êtes en dehors des heures d'ouverture et vous rappellerez pendant les heures d'ouverture pour avoir un humain qui va vous répondre. Mais si vous voulez, je vous donne la possibilité de lancer un traitement via une intelligence artificielle. Et de pouvoir lancer quelques prestations assez simples, on va dire, sur ces bases-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui risque, sur lequel on risque d'aller. Ouais.
David. Moi, juste, je me projette sur un sujet qui est très différent. C'est les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, qui sont un peu loin de l'informatique. Aujourd'hui, ils ont 75 ans. Généralement, ils traitent parfois l'accès à l'informatique de leur maman qui a 85 ans, voire 90 ans. Et je me dis que le digital aujourd'hui, on se dit qu'il est encore loin d'un certain nombre de populations. Donc, on se rend compte dans la réalité que les gens très âgés, lorsqu'ils ont de la famille, parce qu'on en parlait ce matin, c'est pas le cas de tout le monde, mais lorsqu'ils ont de la famille, le fait d'avoir un portail, on peut partager un accès. Ouais. Et donc, du coup, les enfants ou les petits-enfants peuvent prendre le relais pour traiter l'administratif, en fait. Après, je me dis, moi, les générations, alors je parle même pas des nouvelles générations qui arrivent, mais parce que là, ils sont déjà tous sur leur téléphone, mais je pense que le vieillissement de la population fait que même les comportements qu'on envisage aujourd'hui en disant ils sont trop âgés, etc., je vois ma mère ou ma belle-mère, ils sont déjà dans le monde de l'informatique. Ils sont pas à notre niveau. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ça devient effrayant. Mais je crois beaucoup aux microservices, c'est-à-dire un bouton, une tâche, et on sécurise tout le monde. Et moi, je sais pas quelle tête auront nos locataires dans 5-10 ans par rapport à l'informatique, en fait.
Est-ce que la fracture...
Moi, je pense que la fracture numérique va se résorber, en fait.
Ouais.
Non pas parce que ceux qui sont loin vont disparaître, mais plutôt parce qu'en fait, ils sont passés d'un air d'ordinateur compliqué, contrôle Alt-Sup avec un mot de passe, etc., à un téléphone où ils ont un doigt, ils s'ouvrent, ils ont trois boutons.
C'est plus simple.
Moi, aujourd'hui, ma mère, elle est sur un téléphone beaucoup plus à l'aise qu'avec un ordinateur. Enfin, une tablette, enfin... C'est très facile. Donc en fait, on a réduit ce volet-là. Par contre, effectivement, saisir un formulaire avec des données administratives, où il faut comparer le papier, télécharger un document, tout ça, c'est compliqué. Et pour certains, ils ont besoin d'une preuve papier, du fait qu'ils aient bien une quittance, qu'ils peuvent se mettre dans un classeur ou qu'ils peuvent jeter à la poubelle. Mais voilà, donc l'autre question, c'est le papier. Est-ce qu'on aura encore du papier dans 5 ans?
Donc, si je vous dis la relation locataire dans 5-10 ans sera digitalisée pour être plus simple, ça vous semble être une bonne conclusion?
Je pense, ouais. La simplification, c'est quelque chose de... Simplification, simplifier.
sur la simplification, j'ai toujours un petit doute avec nos joyeux législateurs si un jour...
Ça, c'est encore autre chose, Vincent.
Ils partiront
c'est dans un nouveau chapitre qu'il faudrait qu'on ouvre.
Voilà, dans la simplification. Oui, on peut sincèrement l'espérer. Je partage effectivement l'analyse de David de dire qu'il y aura une fracture numérique, en tout cas générationnelle, qui va se réduire naturellement. Oui. Ça paraît à peu près évident. Nous, on est aussi gestionnaire de résidence autonomie et les ateliers numériques sont devenus des ateliers courants. Donc ça existe aussi. On accueille les plus fragiles quand même. On est dans le logement social. On a quand même une petite part de la population qui sont réellement en fracture, mais on va parler de personnes qui sont plutôt, enfin qui sont analphabètes. Et donc il y a toujours une partie de la population pour lesquelles l'accompagnement sera nécessaire, l'humain restera indispensable, et quelque part, voilà, c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que tout ce qu'on pourra digitaliser et automatiser au mieux dans les petites tâches chronophages courantes doit nous permettre de rester concentrés sur l'accompagnement humain, et je pense que c'est là la vraie valeur ajoutée des bailleurs sociaux.
David, à vous la conclusion.
C'est moi qui conclue. Je suis complètement d'accord avec Vincent, parce qu'effectivement, un éditeur, des coups, il y a des clients et eux, ils ont un métier. Et dans notre famille de clients, on a des gens qui sont dans le logement accompagné, ce qui est avant encore le logement social. Alors déjà, il y a des problématiques logement social qui sont parfois complexes, mais dans le logement accompagné, c'est pas encore pire, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est avant le logement social. C'est-à-dire qu'il y a encore moins d'autonomie. Et c'est les mêmes questions qu'on se pose, c'est à quel niveau on leur donne un accès, entre guillemets, sur l'informatique, etc. Mais c'est le boulot d'accompagnement qui fait que ça va bien se passer, quoi.
Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde. Sonia Fonseca, je rappelle que vous êtes directrice de la relation client du pays de Meaux Habitat. Merci beaucoup d'avoir été à notre micro. Vincent Lamy, vous êtes directeur du pôle gestion locative chez Séminor. Merci beaucoup aussi pour votre présence. Et David, Nicole, merci de nous avoir tous accueillis pour cette table ronde organisée par Sepia, dont vous êtes le directeur général.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Immo et Radio Territoria.